It's Morning Edition from NPR News.
Das sieht hieß an Bieberhausen.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous parlons de Volodymyr Zelensky avec ceux qui l'ont vu changer, se métamorphoser même en l'homme qu'il est aujourd'hui et qui étonne le monde entier. Une première biographie du président ukrainien par deux journalistes en poste en Ukraine et dans la région. Le bruit du monde ce soir est en Argentine. On parle d'inflation chez nous à juste titre. Que dire de ce pays qui vit en inflation constante, plus de 50% par an? Mais comment vit-on avec une inflation pareille? C'est ce que vous découvrirez. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Logeni a trouvé des fermes de sang en Islande. Vous verrez ce que c'est assez terrifiant. Un tunnel de 530 mètres entre les États-Unis et le Mexique pour faire passer de la drogue. Et le Spider-Man de Khartoum au Soudan. 18h50, le cinéma en VO est à Cannes avec Corinne Pellissier qui a vu le Kirill Serebrennikov en compétition cet après-midi. Première montée des marches pour le réalisateur russe. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four. Expulsion de diplomates, prise de Mariupol. On y viendra, il ne faudrait pas enterrer Poutine trop vite. Le monde est vaste et on a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Régis Janté et bonsoir Stéphane Siohan.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les deux. Merci beaucoup d'être ici. Vous signez Dans la tête d'un héros, Zelensky, Dans la tête d'un héros, c'est publié chez Robert Laffont. Vous êtes pour l'un journaliste en Géorgie, l'autre en Ukraine pour différents médias, dont nos cousins de RFI qu'on salue au passage, pour Libé, pour Le Figaro, pour France 24. Première bio donc dans cet étonnant président ukrainien, un homme qui, comme vous le dites, est arrivé au pouvoir par effraction et devient désormais l'incarnation de son peuple et peut-être aussi de beaucoup d'autres choses. Stéphane Siohan, vous qui êtes en poste à Kiev, vous l'aviez rencontré lors de sa campagne présidentielle, avant le deuxième tour, si je ne m'abuse, si je me souviens bien de ce que j'ai lu. Est-ce que vous pointiez déjà un peu l'homme qu'il est aujourd'hui, ou est-ce que, comme beaucoup d'autres, vous êtes tombé de votre chaise en voyant ce qu'il est devenu?
Alors en effet, oui, je l'ai rencontré la première fois avant le premier tour de l'élection présidentielle en mars 2019. Je dois dire que je suis pas totalement surpris de ce qu'il est devenu, mais ça a été une évolution progressive, c'est-à-dire que l'homme qu'il était en 2018-2019 n'a absolument rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Moi, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était qu'il n'avait aucune appétence pour les affaires militaires. C'est quelqu'un qui, dans ses discours, et d'ailleurs beaucoup de journalistes ukrainiens le disent, il a pour valeur cardinale le respect de la vie humaine. Et c'est quelqu'un qui, dans tout son parcours, montre qu'il a un rejet de la violence. Je me souviens qu'à l'époque, lorsqu'il commentait les événements de la place Maïdan, la guerre dans le Donbass, c'était quelque chose qui était très éloigné. On sentait que la violence était quelque chose qui l'horripilait. Et on avait du mal à penser qu'il pourrait faire cette mue de chef de guerre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de soldats à l'époque qui ne s'imaginaient pas avoir cet homme comme commandeur suprême des armées.
Et d'ailleurs, chef de guerre, Régis Janté, est-ce qu'on peut vraiment dire chef de guerre? Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que depuis qu'on le voit faire, on le voit alors habillé certes, parfois il y a le gilet pare-balles, il y a toujours la tenue qui est kaki façon militaire, mais on le voit surtout parler à son pays, on le voit incarner le pays, on voit pas des réunions militaires, on voit pas tout ça, on a l'impression que ça, ce sont deux choses qui sont extrêmement séparées.
Oui, absolument, on a de la peine d'ailleurs à employer cette expression de chef de guerre.
Absolument.
On l'emploie parfois. Mais c'est assez galère.
D'ailleurs, on ne voit jamais de soldats ukrainiens dans cette guerre, même y compris les journalistes. C'est très très compliqué d'approcher de toute façon ce front-là. Ouais. Mais chez lui, pareil.
On a l'impression que l'armée fonctionne très bien d'ailleurs, d'elle-même, en une sorte d'autonomie. On présume, mais on n'a pas d'information là-dessus, qu'effectivement, sur un certain nombre de décisions clés, c'est quand même lui, le président, qui prend les décisions, qui donne son feu vert, mais qu'il est plutôt. Il y a une sorte de partage des tâches, et lui, effectivement, est sur la communication, mais pas une communication vide, la mobilisation du monde autour de l'Ukraine, parce que c'est quand même David contre Goliath, cette guerre, et il lui faut le soutien des opinions, notamment occidentaux, et il travaille sur ce sujet, effectivement.
Alors c'est vrai que c'est pas ce qu'il veut endosser, en fait. Ce qu'il veut endosser, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'on sent. Il ne veut pas endosser le gars qui regarde les armées, qui voit bouger les bataillons, etc. Absolument. C'est pas du tout l'image qu'il veut renvoyer, vraisemblablement.
Et tous les soirs, par exemple, on le trouve sur le site de la présidence ukrainienne, il fait un, une petite vidéo où il fait une sorte de compte-rendu de la journée. Et elle se termine presque toujours par l'énumération des décrets qu'il a signés pour dire qui est devenu héros, a été décrété héros de l'Ukraine. Et on sent dans le ton qu'il emploie, la manière de faire, qu'il ne s'accapare pas en fait ce titre. Il le laisse véritablement aux gens qui se sont battus. Donc il ne cherche pas à apparaître comme un militaire de ce point de vue.
Ce qui est impressionnant, c'est, et on l'a beaucoup dit, on a parlé de Samu, on a parlé surtout de Samu en une nuit, en fait, et de cette fameuse vidéo qui dit, il descend, il est dans la rue, il est à Kiev, et il dit, je reste, je ne bouge pas, ma famille aussi, d'ailleurs. C'est à ce moment-là que se fait Samu, ce qu'on peut dire qu'il a vraiment bougé en une nuit, ce garçon, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, en une nuit, réellement?
Moi, je crois qu'il a fait face à un moment existentiel comme peu de gens peuvent le connaître.
Après, il a su le saisir.
Après plusieurs conversations avec des diplomates, normalement, il semble à peu près clair qu'encore quelques jours avant le déclenchement des hostilités, Volodymyr Zelensky ne croyait pas à l'hypothèse d'une invasion territoriale totale de l'Ukraine et que les renseignements américains étaient sans doute exagérés. Et alors, je dis pas qu'il est totalement tombé des nues, parce que les Ukrainiens ont leurs propres renseignements et l'armée se préparait à la guerre de toute manière. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que cette fameuse nuit, il y a deux discours qui sont absolument incroyables. Vers 2h du matin, Volodymyr Zelensky qui prend la parole en russe, en s'adressant au peuple russe, en lui demandant d'arrêter ce mécanisme infernal. Et puis, il y a le discours de Poutine qui conduit à la guerre. Et là, il a une décision à prendre pour lui-même. Il pourrait éventuellement partir. Il pourrait se dire, voilà, je suis pas l'homme qui va conduire cette bataille. Il a une villa en Italie, il a des appartements à Londres, il a pas de problème d'argent. Il peut ne pas endosser l'habit. Et puis, finalement, il peut également se dire, je vais suivre mon peuple. Mon peuple va résister, donc je dois me mettre à la hauteur. Et maintenant, le brouillard est en train de se dissiper sur ces heures-là. Et on sait que durant les premières 48 heures, il y a eu des tentatives d'assassinat de Volodymyr Zelensky, que des commandos russes se sont introduits dans le centre de Kiev. Oui, ce sont en tout cas les informations qu'on a actuellement, que deux commandos se sont approchés du bâtiment de la présidence la deuxième nuit de la guerre, et que même selon les dernières informations qu'on a, la garde de la présidence a donné des gilets pare-balles et des armes automatiques à Volodymyr Zelensky et à ses plus proches conseillers.
Mais donc vous dites, il voit le peuple agir, et tel qu'il voit le peuple, il sait comment agir derrière. À un moment dans le livre, vous l'appelez le président caméléon, ça participe de ça au fond, un peu peut-être, non, Régis Janté?
Oui, il y a quelque chose comme ça, c'est une sorte de populisme en réalité, hein, puisqu'il vient presque sans colonne vertébrale idéologique, et puis en gros, je me mets au service du peuple. C'était serviteur du peuple, c'était le nom de la série télévisée qu'il a joué, où il a joué le rôle de monsieur personne qui devient le président par accident. Et c'est un peu ça qui lui est arrivé. Il n'était pas personne. Il était un comédien, mais il n'était pas un politique, quoi. Et effectivement, on a quelqu'un qui s'adapte, dont le pédigré culturel le renvoyait plutôt vers le monde russe, en quelque sorte.
C'est vrai,
Et en fait, parce que l'Ukraine s'est beaucoup détournée du monde russe ces dernières années, grâce, si j'ose dire, à M. Poutine depuis 2014. Et lui, en fait, il a suivi ce peuple, il accompagne le peuple dans ce mouvement.
Mais vous dites, pas de colonne vertébrale idéologique. Moi, ce qui m'a frappé, c'est pendant la campagne, vous écrivez, lorsqu'il se retrouve seul avec un ou plusieurs journalistes pour un entretien dont il n'a pas obtenu les questions en amont, le naturel revient au galop, ça coince, la pensée de Zelensky est brouillonne, quelle que soit la langue utilisée, il a de bonnes intuitions, mais il tourne souvent autour du pot. Et dans ces moments-là, Zelensky devient une véritable énigme politique. À quoi pense-t-il? Et au fond, quelles sont ses idées fortes, et en a-t-il vraiment ?
Oui, c'est l'impression que j'ai eue à cette première rencontre qui a eu lieu en mars de 2019. Volodymyr Zelensky et son équipe voulaient à tout prix éviter les tête-à-tête avec les journalistes. Donc on avait le droit d'accéder au studio où il tournait la dernière saison de sa série Serviteur du Peuple. Il venait des fois serrer la main, il faisait un petit salut, mais par contre, aucune discussion. Jusqu'au moment où ils ont accepté de faire un déjeuner avec 6 journalistes, et où on s'est rendu compte que sa pensée était un vide de sens. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est bête, c'est un homme d'affaires qui s'est hissé à un certain niveau dans son pays grâce à sa force de travail. Il a un talent d'entrepreneur, mais lorsqu'on l'interrogeait sur ses idées, il y avait un véritable vide, et il s'est même accroché à un moment donné avec le correspondant de Moscou, de The Economist, qui lui demandait, mais comment vous voulez mettre fin à la guerre, parce que c'était son message principal, et où il était incapable de dire comment il allait s'y prendre. Et cette pensée qu'il a, cette difficulté à générer une pensée, je l'ai retrouvée lors de la dernière dernière interview que j'ai pu faire avec lui, qui était à l'été dernier, où on était trois journalistes dans son bureau. Et c'est une pensée qui est très méandreuse. Par contre, il devient extrêmement efficace lorsqu'il pense lui-même ses propres messages.
Et alors, c'est intéressant, vous parlez du premier rendez-vous diplomatique. C'est Isabelle Dumont qui parle, qui a été l'ambassadrice de France en Ukraine, et qui dit que le premier rendez-vous réellement diplomate, c'est une catastrophe. Enfin, ils sentent rien, ces diplomates-là. Et lui non plus, d'ailleurs. Lui en sort, il est effondré aussi parce qu'il se dit qu'il n'a pas été à la hauteur. Et elle dit aussi, quelques mois plus tard, ça n'était plus le même homme, très au fait des questions notamment ukrainiennes. On sent en fait que ça bosse. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Également comme un comédien peut-être, mais pas seulement. Voilà quelqu'un qui a, en quelques mois, énormément travaillé apparemment.
C'est un énorme bosseur. Ouais. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle avec ses associés, avec des gens qui étaient dans sa société de production, le Kvartal 95, qui est la plus grosse société de production audiovisuelle en Ukraine, tout le monde dit que Zelensky a une capacité à amener les gens autour de lui en raison de son énergie, de sa capacité de travail qu'il a depuis ses années. C'est quelqu'un qui travaille pas beaucoup. Qui dort pas beaucoup, pardon. Et je crois qu'il a appris les codes de la politique. Il a appris également à parler avec les journalistes. C'est pas toujours facile. Il a un certain ego qui fait qu'il a du mal à accepter la critique. Mais en 3 ans, moi j'ai vu un énorme progrès. Et pour reprendre les mots d'une consoeur journaliste ukrainienne, journaliste politique, il a peut-être fait plus de progrès depuis le début de la guerre en tant que homme d'État que en 3 ans de mandat.
Qui le conseille? Est-ce qu'on sait ça? Est-ce qu'on sait qui le conseille, qui le suit? Est-ce qu'on sait qui écrit ses discours, lui donne aussi toutes les références historiques qu'il a choisi d'apporter à chaque fois qu'il s'adresse à une nation particulière? On sait ça? On connaît son entourage ou pas?
Il est assez peu conseillé. Enfin, il travaille beaucoup tout seul. On dit qu'il écoute pas beaucoup d'ailleurs.
C'est vrai.
Et qu'il écrit plutôt les choses tout seul. Alors, il a quelqu'un qui écrit ses discours, une jeune personne d'une trentaine d'années, effectivement. Mais c'est plutôt quelqu'un qui entreprend lui-même et après qui est encadré, oui.
Mais ça veut dire que les idées de com, par exemple. Parce qu'on dit qu'il est parti, c'est ce que vous écrivez d'ailleurs, il est venu aussi à la présidence avec ses équipes de production aussi, précisément parce qu'il... Et du coup, il sait les codes de la communication, pour le coup, il les a.
Tout son entourage sont des gens de la production.
C'est ça, voilà.
Mais totalement, je crois qu'on est face à un cas unique au monde où un groupe d'entrepreneurs en audiovisuel et en événementiel a fait le casse du siècle en prenant le pouvoir dans un état de 43 millions d'habitants. Et dans les premiers mois de la présidence Zelensky, les 4-5 personnes qui sont décisionnelles autour de lui à l'administration présidentielle sont tous des producteurs de cinéma, producteurs de télévision, audiovisuel, et c'est des gens qui maîtrisent totalement les codes de la communication visuelle. Alors c'est pas du grand cinéma qu'ils font, hein. C'est du téléfilm, c'est des séries, des dessins animés, mais ils maîtrisent les codes des réseaux sociaux. Or l'Ukraine est un pays extrêmement digitalisé où Instagram est très puissant. Ils savent comment cadrer des images, quelle caméra utiliser. Et Zelensky a un speechwriter, quelqu'un qui écrit ses discours, qui est un jeune homme de 33 ans, Yuri Kostyuk, qui est le scénariste principal de la série Serviteur du peuple. Et il a emmené à peu près une trentaine de personnes de sa société de production dans les arcanes de l'État.
C'est intéressant. Hein. Et c'est intéressant aussi, vous dites que c'est en regardant Emmanuel Macron qu'il a imaginé son projet politique. Vous dites même qu'il aimait l'esthétique d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
Alors, ça vient de cette discussion qu'on avait eue avec lui, une discussion de 2 heures juste avant l'élection présidentielle. On avait demandé à Volodymyr Zelensky s'il avait des modèles en politique. Et il a répondu de non. On est un peu tombé de notre chaise. Il a parlé d'Emmanuel Macron et de Bolsonaro au Brésil. Alors, voilà, on a un petit peu écarquillé des yeux. Et il a parlé, en fait, d'Emmanuel Macron. Et je pense parce qu'il y a quelque chose de générationnel. Tous les deux sont nés la même année, en 1978, et il a vraiment parlé de ce rapport esthétique au pouvoir, de la manière dont Emmanuel Macron se présente, se met en scène, et je crois qu'il y avait quelque chose qui l'attirait fortement là-dedans. Et par ailleurs, les conseillers politiques de campagne de Volodymyr Zelensky, ses stratèges, observaient de très près qu'est-ce qui se passait en France, deux populismes qui étaient en train de s'affronter, le populisme soft de La République En Marche, et cette manière d'appréhender le pouvoir du mouvement d'Emmanuel Macron, et les Gilets jaunes d'un côté, qui était une autre aspiration du peuple. Et moi, sur 3 ans de présidence Zelensky, j'ai vraiment vu beaucoup d'analogies entre le mouvement politique Serviteur du peuple qu'a créé Zelensky et le mouvement La République En Marche en France.
Alors, et c'est vrai qu'on a beaucoup dit, on le disait au début de cet entretien, que c'est la guerre qui a fait cet homme, en fait, qui l'a façonné différemment. Et en vous écoutant, je me demande s'il était déjà en train de faire un tournant dans son pays. Aurait-il existé exister réellement en Ukraine sans la guerre? Est-ce qu'on peut se poser cette question-là ou pas?
Non, elle lui a vraiment véritablement donné une ampleur, une carrure qu'il n'aurait probablement pas eue, parce qu'il était aussi enferré dans cet état oligarchique, assez corrompu, avec une bureaucratie très difficile à bouger, à changer. Probablement pas.
Donc il n'était pas en train de réussir ça. Est-ce qu'on dit qu'il était en train de réussir ça ou pas? Parce que vous dites à un moment qu'il a réussi à couper les fils des oligarques qui le maniaient comme une marionnette. Les a-t-il coupés réellement?
Non, pas véritablement. Ça s'est un peu fait par la force, mais il était beaucoup trop tôt pour dire si finalement il aurait eu raison de cette oligarchie. Donc effectivement, la guerre l'a faite. Pour revenir sur cette question des gilets jaunes, en fait, c'est qu'en fait, il fait de la politique par le bas, donc ce qu'on pourrait appeler une forme de populisme, mais il l'a faite pas au sens où il aurait manipulé l'opinion, mais au sens où il a suivi. Il a suivi le mouvement de fond, peut-être aussi parce que l'histoire est à un moment absolument clé de son histoire, et où on sent que la population est en train de muter complètement, de se détourner du monde russe, notamment depuis la guerre de 2014, qui a fait tant de morts, où on a vu aussi tellement la Russie agir de façon très, très mauvaise, avec de la corruption dans tous les territoires occupés du Donbass, par exemple. Mmh. Et la population, y compris de ces régions, s'est elle-même détournée de la Russie. Il vient d'ailleurs plus ou moins de cette région, de cette partie de l'Ukraine.
Bien sûr.
Et finalement, lui-même suit ce mouvement, l'accompagne et lui donne corps. C'est ce qui lui donne sa légitimité, certainement.
Et vous redites combien il a réappris l'ukrainien, en fait, pour cesser de parler le russe intégralement, alors qu'il est d'une région effectivement russophone. Et on le dit depuis le début, c'est bien le contresens de Vladimir Poutine d'avoir cru que russophone voulait dire pro-russe. Mariupol est tombé hier, désormais. C'est la première victoire russe, on peut le dire comme ça. Est-ce que ça peut changer des choses quand des défaites arrivent, que la narrative doit à un moment être autre pour les Ukrainiens? Est-ce que ça peut changer quelque chose dans l'image de Zelensky ou pas du tout?
Moi, je ne crois pas que ça va changer grand-chose. Parce que les Ukrainiens s'attendaient à la chute de Mariupol. C'était devenu une bataille symbolique, comme l'avait été en 2015 la bataille de l'aéroport de Donetsk, où à un moment donné, la geste héroïque devient tout aussi importante, sinon plus importante que l'issue même de la bataille. Maintenant, ce qui était très important pour Volodymyr Zelensky, c'était de sauver le maximum de vies. Il y avait une véritable symbiose entre les combattants d'Azovstal et la population, parce qu'en fait il faut s'imaginer que c'est vraiment un pays très digitalisé où les soldats font la guerre avec leur téléphone portable. Et donc en fait ils transmettaient des images, des informations sur ce qui se passait sur place. On savait instantanément ce qui se passait à Azovstal, et donc il fallait sauver ces soldats, et je crois qu'il y a un accord qui a été passé. Maintenant on va voir combien de soldats reviendront vivants de ces camps de filtration, mais en tout cas ce sera une petite victoire, je pense, en interne pour Volodymyr Zelensky, s'il fait revenir le maximum de soldats vivants.
En tout cas, ça s'appelle Zelensky, dans la tête d'un héros. C'est publié chez Robert Laffont, signé Régis Janté et Stéphane Suyan. Je vous remercie tous les deux, vraiment, beaucoup. Merci de votre passage chez nous.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde, et ça se passe en Argentine où l'inflation c'est plus 50% par an, et vous verrez comment on vit dans une telle instabilité. Et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logénie.
On ira à la rencontre d'un super-héros de la rue au Soudan, le Spider-Man de Khartoum, manifestant déguisé et infatigable depuis le coup d'état militaire d'octobre.
Le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissier depuis Cannes et Kirill Serebrennikov qui monte les marches, le russe bien sûr, et son film est en compétition. Le monde d'après, Jean-Marc Fourbon.
Bonsoir à tous. Eh bien, on va prolonger la discussion que vous aviez avec vos invités et voir que, après la chute de Mariupol et après l'expulsion de diplomates occidentaux, la Russie est loin d'avoir dit son dernier mot.
Eh bien, tout de suite, tout le monde, le tour de la planète continue avec Olivier Sim, Romance with a Memory. C'est le membre du trio britannique The XS qui se lance en solo. C'est sur France Inter et c'est dans Un jour dans le monde.
The lack of a kiss did more. it's less about you than a romance with a memory. Maybe it's best that we never meet again. So I'm let down by reality. You're just an idea to keep me company late in the night. You were never really here, not like the picture I have in my mind. Since the day we met, the only thing I regret is my taste for deceit.
Ce soir est en Argentine. On parle d'inflation en France et on a raison de s'en inquiéter, mais en Argentine, l'inflation fait partie de la routine des habitants. Ces dernières années, ils vivent avec un taux d'inflation qui tourne autour de 50% par an, 50,9 même l'année dernière. Et ce chiffre pourrait être encore plus élevé cette année. La guerre en Ukraine et l'inflation globale, certes, a de lourdes conséquences sur les prix en Argentine, mais il existe des facteurs internes qui expliquent aussi ce phénomène. Alors comment on vit avec plus de 50% d'inflation par an? Nous sommes à Buenos Aires avec Joséphina, elle est sociologue, avec Fernando, il est graphiste, et leurs deux enfants. Le reste, c'est Caroline Vic qui raconte.
Entre deux cours, Joséphina, 38 ans, sociologue, profite d'une pause pour aller retirer deux pantalons de marque dans un magasin de vêtements de Buenos Aires pour ses deux enfants, Lorenzo et Ramiro, de 10 et 6 ans. Un achat réalisé sur Internet, plus rapide et surtout moins cher, car en Argentine, trouver le meilleur prix est un sport national. Joséphina.
Je cherche dans différents endroits, je regarde sur Internet, je guette les promotions. Là, tu vois, c'est un des pantalons que j'ai acheté à 6300 pesos, donc 50 euros. Et ça va leur durer un an. Par contre, les joggings ou les vêtements pour aller à l'école, je les achète dans des magasins plus accessibles, sans marque. Mais pour des vêtements pour sortir, plus élégants, je préfère une tenue plus jolie, de qualité, bien coupée. Mais c'est limité. Ils ont deux ensembles chacun par an, et encore, le petit récupère souvent les vêtements de son grand frère.
L'inflation touche le secteur du textile, mais aussi et surtout celui des aliments. Rien que depuis le début de l'année, les aliments enregistrent déjà une hausse de 25%. Faire ses courses est donc devenu un vrai parcours du combattant. Ce jour-là, Joséphina se trouve dans un supermarché grossiste de son quartier.
Alors, la mayonnaise, on en consomme pas mal, donc je regarde bien les prix. Celle-ci vaut 112 pesos. Celle-ci qui est importée vaut 250 pesos, le double. Je vais prendre celle-là, une intermédiaire à 163 pesos. Sur ce genre de produits, les sauces, les pâtes, on peut trouver de bons prix. Mais si on veut quelque chose de nutritif, il faut acheter des fruits et légumes qui sont très chers. Ça a beaucoup augmenté. Au début de l'année, on dépensait 3000 pesos. Sauce par semaine en fruits et légumes, et maintenant je paye 6000 pesos.
$13,885
Le secret est de bien s'organiser, de fixer des priorités, d'acheter intelligemment et de rester serein, même si l'angoisse est bien là. Joséphina.
Quand on s'organise bien, on dépense moins. Je prépare les menus à l'avance pour ne pas acheter trop de choses. Je viens d'un genre de supermarché qui ne te tente pas avec des têtes de gondole. Mais tout ça génère de l'incertitude parce qu'on ne sait jamais si on va boucler notre fin de mois. Ça génère de la colère parce qu'on sent qu'on est habitué et qu'il n'y a pas de solution. Et de la résignation aussi. Quand on entend que 5% d'inflation, c'est une horreur en Europe, ou aux États-Unis, pour nous, c'est une blague. On s'était habitué à 20% d'inflation annuelle et depuis 6 ans, les chiffres sont extrêmement élevés. On ne peut rien prévoir. Le pire, c'est que les salaires ne couvrent pas cette hausse. Quand on reçoit une hausse de salaire, on est content pendant un ou deux mois et immédiatement après, l'inflation nous dévore.
Effectivement, depuis 14 ans, l'Argentine a un taux d'inflation annuel à deux chiffres. L'année dernière, il s'est élevé à 50,9%. Et les causes sont multiples. L'impact de la guerre en Ukraine, mais aussi des facteurs internes. L'économie dollarisée, qui génère souvent des dévaluations du peso, la forte émission monétaire ou l'endettement pour faire face au déficit fiscal, ou encore le manque de contrôle des prix. Aujourd'hui, les grands monopoles alimentaires se chargent eux-mêmes de fixer les prix et les petits commerces augmentent leurs tarifs à leur guise. Mais l'inflation en Argentine, ce n'est pas nouveau et il faut vivre avec. Fernando, le mari de Josefina.
Je comprends qu'il puisse y avoir des opportunités à l'étranger, dans les pays développés. Mais d'un autre côté, j'ai 45 ans et j'ai vécu plusieurs crises. Et à chaque fois, on dit que c'est la fin, la dernière bataille. Mais ce sont des crises qui, au bout du compte, sont liées à la situation latino-américaine. On vit dans certaines conditions assez dures, économique, sociale et politique. Donc de ce point de vue-là, je sais que mes enfants doivent relever un défi s'ils restent ici. Mais ce n'est pas quelque chose qui me désespère parce qu'on a survécu à différentes crises et je crois qu'on va encore s'en sortir.
Aller de l'avant malgré les difficultés, être raisonnable mais se faire plaisir, tel est l'esprit argentin inculqué dès le plus jeune âge. Lorenzo, 10 ans.
Après l'école, on ne va presque jamais acheter quelque chose parce qu'il faut économiser son argent. Parfois, au club de sport, oui, on peut s'acheter des petites choses comme des petits alfajores, des chips ou une boisson. Et de temps en temps, on va manger une glace, un burger ou une pizza. Et ça, j'adore.
Entre le manque de régulation, les difficultés internes, les spéculations et les effets de la guerre, les prix ne cessent de grimper. Mais les Argentins, souvent résignés, s'adaptent et continuent à vivre au mieux. En janvier, l'objectif 2022 du gouvernement était d'arriver à un taux de 33%. Mais pour les quatre premiers mois, on a déjà dépassé les 20%, ce qui annoncerait donc une inflation en 2022 de près de 60%.
Caroline Vic pour le reportage, merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale. Passez sous les radars et c'est Sébastien Logénie. Et nous sommes dans les campagnes islandaises où les fermes de sang, Sébastien, pourraient bientôt être interdites.
Oui, c'est un scandale de la maltraitance animale qui dure depuis des années et qui vient de rebondir avec une plainte d'un collectif d'ONG. Les fermes de sang, ce sont des exploitations agricoles qui collectent le sang de juments vivantes en gestation. Leur sang est en effet très recherché pour l'hormone qu'elle contient dans leur placenta. Ça s'appelle l'ECG, une hormone qui est ensuite transformée en poudre et utilisée par l'industrie pharmaceutique pour améliorer la reproduction des porcs, des vaches ou des moutons. Résumé plus crûment par un vétérinaire qui s'y oppose, ça donne l'Islande poignarde des juments pour faire en sorte que des porcs aient plus de porcs. Une pratique qui n'existe que dans trois pays au monde, l'Argentine, l'Uruguay et donc l'Islande, où l'on compte 119 fermes de sang et plus de 5000 juments concernés. C'est une ONG allemande dont on entend le documentaire qui a rendu public cette situation l'an dernier avec une vidéo en caméra cachée très violente. On y voit des animaux maltraités et à qui on prélève 5 litres de sang chaque semaine pendant 2 mois avec une canule dans la gorge. Les images ont choqué tout le pays et toute l'Europe, mais depuis rien n'a changé. Alors une coalition internationale de 17 ONG a décidé de déposer plainte il y a un mois et demi auprès d'une autorité européenne chargée de surveiller les règles de libre-échange avec l'Islande. Le principal parti d'opposition islandais a aussi déposé une loi pour interdire ces fermes de sang. Un groupe de travail doit rendre ses conclusions cet été, mais il reste un obstacle. L'Islande ne fait pas partie intégrante de l'Union européenne. Il est donc plus difficile d'y faire pression.
Un nouveau tunnel de narcotrafiquants découvert entre le Mexique et les États-Unis.
C'est lors d'une opération classique de surveillance que les stupes américains sont tombés sur un trou dans un entrepôt à même le sol, en ciment. En descendant une échelle, ils sont tombés sur un tunnel très sophistiqué, 1,20 m de large et surtout 530 mètres de long. Des cloisons renforcées en béton, un système de rails, des câbles pour acheminer l'électricité et un système de ventilation. Le tunnel reliait la ville de Tijuana au Mexique à la ville de San Diego, de l'autre côté de la frontière aux États-Unis. Le procureur fédéral de Californie, que l'on entend là, affiche sa détermination. Nous supprimerons tous les passages souterrains de contrebande que nous trouverons afin d'empêcher les drogues illicites d'atteindre nos rues et de détruire nos familles. Pour autant, ce n'est pas le premier, certainement pas le dernier tunnel que la police américaine démantèle. Le dernier découvert en Californie remonte à 2020. Il était encore plus long, 1 km 313. En 30 ans, 90 de ces types de passages secrets ont été mis au jour, soit pour le trafic de drogue, soit pour faire passer des migrants clandestins.
Et puis, on termine au Soudan avec un super-héros de la contestation.
On l'appelle le Spider-Man de Khartoum, un manifestant dont on ne sait rien, ni l'âge, ni le nom, encore moins le visage, mais qui se déguise en homme-araignée toutes les semaines, ou presque à chaque manifestation contre les généraux au pouvoir. Une star des réseaux sociaux et un modèle pour les opposants au régime militaire. Le quotidien britannique The Guardian en a fait le personnage central d'un documentaire. On le voit ici revêtir son habit de super-héros, un simple déguisement, mais qui lui donne une super énergie, raconte-t-il. Avec ce costume de Spider-Man, j'ai l'impression de pouvoir faire quelque chose. Je peux tout faire. On a eu une dictature pendant 30 ans, dit-il. En 2019, on a gagné notre révolution et maintenant, les généraux nous l'ont volé. Voilà, la situation au Soudan est en effet totalement bloquée aujourd'hui. L'ancien dictateur Omar el-Béchir a quitté le pouvoir il y a 3 ans, après des mois de manifestations, des centaines de morts. Mais en octobre dernier, un coup d'État a tout fait avorter. Les Soudanais affrontent désormais régulièrement les forces de l'ordre, près de 100 morts en 7 mois, portés par ce super-héros des rues qui, quand il ne manifeste pas, passe son temps à chercher du pain, de l'essence ou un peu d'électricité.
Merci beaucoup Sébastien. Le génie sous les radars, c'est tous les soirs, vous partez avec l'inusable et indémodable Paolo Conte. Ça date de 86. Zéro vide.
And I hear me jazz, I whisper all of you, I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi. Così eravamo noi, pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, sotto la luna del jazz. Ta da ta da ta da ta da do da, and I hear me jazz. I whisper all of you. I whisper all of you. Yes.
Alors, je peux pas le prononcer, mais le courrier, c'est Paolo Conte sur France Inter. Allez, direction Cannes.
France Inter. Un jour dans le monde.
Только не надевай это красное платье свое. Терпеть его не могу. Темнее надень.
Le cinéma en VO est en direct du Festival de Cannes pour raconter l'état du monde et du cinéma avec un premier film en compétition cet après-midi, La femme de Tchaïkovski, du réalisateur russe Kirill Serebrennikov. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir.
Et c'est vrai que c'est un véritable événement parce que c'est la première fois que le cinéaste a pu gravir les marches du Palais des Festivals pour accompagner l'un de ses films en compétition.
Nous avons le grand plaisir d'accueillir l'équipe du film La femme de Tchaïkovski, Jenna Tchaïkovskaya.
Alors voilà, un moment forcément symbolique, hein, dans une grande simplicité de forme. Kirill Serebrennikov arrivé en smoking, casquette et t-shirt noir, entouré de son équipe sur le tapis rouge après des mois d'assignation à résidence et d'interdiction de sortie du territoire. On se souvient il y a 4 ans de ce fauteuil vide dans le Grand Théâtre Lumière au moment de la projection de son premier film en compétition, Leto. Pareil, l'année dernière, le cinéaste n'avait pas non plus accompagné la fièvre de Petrov. Alors aujourd'hui, malgré la guerre en Ukraine, malgré les appels au boycott, il était fier et heureux d'être ici à Cannes. Lançons un nom à la guerre à la fin de la projection de son film.
En fait, c'est un sentiment complexe que je ressens d'abord parce que effectivement, ce festival se déroule dans un contexte de guerre et que c'est extrêmement compliqué de fêter quelque chose lorsqu'on sait que l'Europe est en guerre. Donc, c'est un sentiment difficile qui m'étreint. Néanmoins, je pense que le festival a trouvé le bon ton pour qu'il se déroule. Je pense que effectivement, ils arrivent à trouver une manière digne de ne pas interrompre le processus. Je pense que c'est d'autant plus important que la culture, selon moi, aide à surmonter justement ce type de situation extrêmement difficile dans lesquelles on est. Il est important que la culture ne soit pas muselée.
Et alors Corinne, une sélection cannoise d'autant plus importante pour lui, évidemment, que ses films sont généralement interdits de sortie en Russie.
Et ce nouveau film sur Tchaïkovski ne fera évidemment pas exception à la règle, même si le personnage central n'est pas le compositeur, mais son épouse, dans une mise en scène magistrale qui mélange à la fois le théâtre et le cinéma. Un film en costume sur un monument russe dont on ne peut pas tout dire. Une des raisons pour lesquelles la femme de Tchaïkovski ne sera pas autorisée en Russie, ce n'est pas un film politique, mais Kirill Serebrennikov y aborde un sujet tabou dans le pays, encore puni par la loi aujourd'hui.
Il y a une sorte de traumatisme, on ne sait pas pourquoi, qui est lié au thème de l'homosexualité. Et en Russie aujourd'hui, ce ne sont que des mensonges, la folie, l'agression, la violence qui sont autour de ce thème. Il faut dépasser ce tabou-là. Aujourd'hui, il est difficile, effectivement, de dire en Russie autre chose que l'homosexualité de Tchaïkovski. Alors que Tchaïkovski, c'était une personnalité qui est beaucoup plus large que cela. C'est ces compositions qui sont capitales. Le tabou est absolument maladif. Et alors qu'on est au 21e siècle et on se dit, mais de quoi parlons-nous? C'est complètement ridicule. Là, par exemple, je suis à Amsterdam, aux Pays-Bas, quand je commence à aborder ce thème-là, on se dit, mais vous êtes sérieux? C'est pas possible quand même. Vous avez encore un problème sur les gays, alors que là-bas, tout le monde est content. Il y a une vraie égalité dont je peux d'un côté comprendre le paradoxe et de l'autre côté, je ne sais pas quoi faire du tout parce que c'est une mentalité complète qu'il faut arriver à changer dans la société russe. Je suis presque heureux en fait que le film ne sorte pas en Russie parce que s'il devait sortir aujourd'hui, ce serait considéré comme une provocation alors que mon film parle de toute autre chose. Donc pour l'instant, il ne sortira pas, mais je sais qu'un jour, il pourra sortir.
Voilà, cinéaste traduit par Joël Chaperon. Il a fini ces dernières semaines par quitter la Russie, en tout cas provisoirement, pour venir travailler en Europe où il a plein de projets en cours. Un film sur Limonov, un opéra, plusieurs pièces de théâtre, dont Le Moine Noir de Tchekhov qui fera l'ouverture du Festival d'Avignon. 2022 sera l'année Serebrennikov avec la clé qui sait peut-être une palme d'or.
Allez, pas si vite Corinne Pellissier, merci beaucoup. On se retrouve à Cannes, évidemment, mercredi prochain. La palme, ce sera dans 10 jours, c'est le 28 mai. On rappelle qu'il y a 21 films en compétition cette année.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, la Russie a donc annoncé ce matin son intention d'expulser plusieurs dizaines de diplomates occidentaux, dont de nombreux Français. Pour vous, ce signe de détermination de Moscou vient nous rappeler que les Occidentaux et les Ukrainiens auraient tort de croire que le vent a définitivement tourné après les récents revers russes sur le terrain. Et c'est votre monde d'après.
Depuis quelques jours, on voit pointer à Washington comme à Kiev un discours optimiste, presque triomphaliste. Nous allons affaiblir durablement la Russie, fanfaronne Washington. Nous allons reconquérir tout le territoire ukrainien, promet déjà Kiev. Eh bien, tout ça est très prématuré. D'abord, la détermination politique de Moscou n'a pas varié. L'expulsion, vous lisiez aujourd'hui, des diplomates européens en est la preuve. 34 Français, 27 Espagnols, 24 Italiens. Ils ont 2 semaines pour plier bagages. Peu importe si les chancelleries occidentales y voient une décision illégitime. C'est pas le sujet, en tout cas pas le sujet de Moscou. Le sujet de Moscou, c'est de répondre à l'expulsion de diplomates russes dans l'autre sens, comme le berger à la bergère, et d'envoyer donc un message politique. Évidemment, cette détermination ne pourrait être réaffirmée sans un socle financier toujours solide. Et ce sera le cas tant que la Russie exporte son pétrole et son gaz, en plus à un prix élevé. Rien que le pétrole, hein, c'est 700 millions de dollars par jour. L'Europe, on le sait, cherche à couper les ponts, mais bon, pour l'instant, elle continue à financer la guerre de Moscou. Quant aux oligarques russes, merci pour eux, ils ont trouvé refuge à Dubaï ou à Tel Aviv. Ajoutons enfin le socle diplomatique. Moscou reste soutenu, notamment par la Chine, dont par exemple l'ambassadeur à Paris réaffirmait encore le week-end dernier combien, selon lui, la guerre en Ukraine a été provoquée par l'expansionnisme de l'OTAN et des États-Unis.
Enfin, Jean-Marc, quand même, sur le terrain, c'est pas brillant pour les Russes, non ?
Oui et non. L'affaire est entendu, la guerre éclair a échoué. Vladimir Poutine n'a pas conquis l'Ukraine en quelques jours comme son état-major le lui avait laissé miroiter. Les forces russes ont abandonné les sièges de Kiev et de Kharkiv. Elles ont déjà perdu beaucoup d'hommes et de pièces d'artillerie. Mais si on fait les comptes à plat, presque cyniquement, la Russie a quand même progressé. Après 3 mois de conflit, elle contrôle plus de territoire qu'avant le début de la guerre. La chute de Mariupol et des résistants de l'usine Azovstal le week-end dernier en est le symbole, même si c'est dans un champ de ruines. Les forces russes tiennent des positions solides à Kherson, la ville qui est située à l'embouchure du Dniepr au sud. Elles poursuivent une lente progression à l'est, dans les régions de Donetsk et de Luhansk. Les bombardements ont repris ces derniers jours. Il faut s'attendre quand même à la chute de villes comme Lysychansk ou Severodonetsk. Et les combats se rapprochent de Kramatorsk, de Slaviansk. L'objectif russe d'une maîtrise de tout le Donbass, donc à tout l'est de l'Ukraine, demeure atteignable. Et à l'inverse, l'hypothèse d'une contre-attaque massive des Ukrainiens reste illusoire, au moins à court terme, dans cette partie du pays. Il faudrait beaucoup plus de chars, beaucoup plus d'avions pour faire reculer les troupes russes qui conservent la supériorité numérique au sol et plus encore dans les airs. Donc faut pas s'y tromper. L'armée russe n'est pas sur le reculoir partout et elle est loin d'être cornerisée. Croire ça, c'est quand même avaler de la propagande inversée.
Oui, mais enfin, c'est pas ce qui va suffire à Poutine pour déclarer victoire.
Sans doute pas, même si là aussi, il peut y avoir un point d'interrogation. Je m'explique. En fait, Poutine peut décider à tout instant de déclarer victoire. C'est pas nécessairement conditionné par des éléments objectifs sur le terrain, c'est une question de communication. Et il faut pas mésestimer le fait que le maître du Kremlin a créé une sorte de monde virtuel de l'information, en tout cas sur le sol russe. Il n'y a plus le moindre média indépendant, on le sait bien, la télévision est aux ordres, les réseaux sociaux sont surveillés par les trolls. Donc si à un instant T, le chef décide de crier victoire, il y aura officiellement victoire. Et en plus, il ne faut pas perdre de vue que l'argumentaire de Poutine pour avoir déclenché la guerre, c'est aussi de protéger la Russie menacée. Il peut très bien décider, par exemple, une fois le Donbass conquis et le nord de la mer Noire en partie contrôlé, d'affirmer qu'il n'y a plus de menace et de proclamer objectif accompli, même s'il est très loin en fait d'avoir atteint ses buts de guerre du début. Peu importe, hein, toute la machine de communication suivrait dans ce cas. Donc officiellement, vu de la salle à manger du téléspectateur russe, il y aurait victoire et Poutine aurait été le sauveur de la patrie. On se résume, non seulement la Russie n'a pas dit son dernier mot, ni économique, ni militaire, mais il ne faudrait pas non plus enterrer Poutine trop vite. Il y a 3 mois, vous savez, Moscou s'y voyait déjà, fatale erreur. Il y a 3 mois plus tard, Kiev ou Washington auraient bien tort d'avoir la même poussée de vanité en sens inverse. Mieux vaut éviter de rouler des mécaniques.
Le monde d'après de Jean-Marc Four, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Évidemment à demain, le 18-20, la suite. Ça continue avec le journal de Jacqueline Fardel et juste après le téléphone sonne. On passe la soirée ensemble.